Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Entre 1949 et 1962, l'URSS a fait exploser un demi-millier d'engins nucléaires au Kazakhstan, sur un site situé près de la ville de Semipalatinsk. Ces essais ont été entrepris durant les années les plus sombres de la guerre froide, et ils ont laissé un nom célèbre entre tous, Andrei Sakharov. Le physicien, l'inventeur de la bombe à hydrogène, devait par la suite s'illustrer parmi les plus virulents opposants au régime communiste, mais avant ce repentir tardif, il fut d'abord l'artisan et le témoin de ces expériences infernales. Les hommes les ont oubliés, mais la Terre s'en souvient encore. Suivez-moi dans cet épisode en deux parties. Je vous emmène aux confins du Kazakhstan et de la Mongolie, dans un périmètre ultra secret. Première partie, l'effrayant ministre Beria. La porte du laboratoire s'ouvre brusquement. Ninel et Patova tournent la tête, se lèvent, ajustent sa robe et retient sa respiration. Si elle reconnaît dans l'un des deux hommes qui viennent d'entrer le visage débonnaire de Kourtchatov, c'est le directeur du centre de recherche atomique de Semipalatinsk, elle n'a vu celui qui l'accompagne qu'en photo dans les journaux. Son cœur bat la chamade. Ce petit homme au visage lisse, le nez chaussé de binocles scintillant à la lumière des néons, affiche un demi-sourire qui, depuis 20 ans, inspire la terreur à tous ceux qui le croisent. Ce jour-là, il porte un imperméable gris au col remonté derrière la nuque et il scrute les installations du laboratoire. Il n'a même pas adressé un salut aux ingénieurs qui se sont levés lorsqu'il est apparu. C'est Kourtchatov, de sa voix grasseyante, qui finit par rompre le silence.
Lavrenti Pavlovitch nous fait l'honneur de visiter notre site pour se réjouir de l'avancée de l'idée numéro 1. Nous ferons tout pour rendre son séjour agréable et lui montrer l'ardeur avec laquelle travaillent nos ingénieurs pour la réalisation de notre grandiose projet.
Ninel et Patova ne s'est pas trompée. C'est bien Lavrenti Pavlovitch Beria qui vient d'entrer. Beria, ministre de l'Intérieur, chef de cet organe qui ne s'appelle pas encore KGB, mais qui porte le nom effrayant en ces années d'après-guerre de NKVD. La nonchalance de Beria est connue de tous. Tout le monde sait en Russie que son petit sourire peut signifier pour celui auquel il s'adresse le poteau d'exécution ou 10 ans de déportation en Sibérie. Ninel Epatova a 25 ans. Elle est la plus jeune savante de l'Institut nucléaire installé à Semipalatinsk, dans l'extrême est du Kazakhstan. D'ici 20 ans, elle deviendra une poétesse de renom et elle racontera dans ses mémoires cette entrevue terrifiante sur un ton à la fois songeur et solennel. Tous les chercheurs présents ce jour-là savent ce que signifie la visite de Beria. Il a été désigné par Staline comme directeur des recherches atomiques. Il a donc les pleins pouvoirs pour faire en sorte que la grande Union soviétique accède le plus vite possible au rang de première puissance nucléaire mondiale. Concrètement, échouer dans ce projet signifie la déportation et la mort pour les chercheurs affectés à ces travaux. Les pas de Beria résonnent entre les murs de l'installation, amplifiés par le silence. Il n'a encore autorisé personne à s'asseoir. Il enlève ses lunettes. Des cernes noires soulignent ses yeux rougis de fatigue. Juste avant de lui faire visiter l'Institut de recherche, on lui a présenté sa chambre, pourvue d'un simple lit métallique. Il y a eu alors un moment de panique parce qu'on n'avait pas trouvé de matelas pour le garnir. L'intendance tout entière se préparait à la déportation collective, mais il n'en fut rien. Beria se contenta de s'étendre pour éprouver la solidité des ressorts avant de lâcher cette phrase.
« Le travail, rien que le travail. Je suis là pour le travail. »
Des décennies après cet épisode, les témoins n'en revenaient toujours pas. « Où est cet homme qu'on nous a décrit comme un monstre » disait-il. « On ne lui a même pas donné de lit décent et il n'a déporté personne. » Certains racontaient même qu'au moment de lui proposer enfin un matelas, Beria avait répondu
« J'en ai rien à foutre !»
Nous sommes de retour dans le laboratoire du centre de recherche atomique de Semipalatinsk. La chaleur étouffante contraste avec le froid extérieur. Imaginez, en cette fin de mois de février 1949, le thermomètre est descendu à moins 55. Depuis la fin de la Grande Guerre patriotique, l'appareil soviétique tente de maintenir l'effort de guerre au-delà du conflit. Le peuple russe a prouvé qu'il pouvait se lever comme un seul homme contre l'ennemi fasciste et en triompher. Il n'y a donc aucune raison, le conflit terminé et la victoire acquise, de l'inviter à se prendre du repos. L'ennemi a simplement changé de nom. De nazisme, il s'appelait désormais démocratie dégénérée. Depuis 1939, les espions soviétiques ont rapporté d'Occident des résultats de recherche stupéfiants. Cela concerne plus précisément les possibilités d'utilisation de la fission nucléaire pour créer des armes capables d'anéantir des pays entiers. Staline attendait fébrilement que les États-Unis apportent des preuves tangibles de ce qui n'était pour l'heure qu'une belle promesse. L'heure de vérité sonne enfin le 6 août 1945. Ce jour-là, les États-Unis lâchent la première bombe atomique de l'histoire sur la ville d'Hiroshima. Une semaine plus tard, Staline réunit un conseil d'urgence et donne l'ordre de produire, dans les plus brefs délais, une arme plus puissante que celle de l'ennemi. Dès le mois de septembre 1945, les chercheurs soviétiques les plus fidèles sont avertis qu'ils doivent se rendre disponibles pour un nouveau projet ultra secret. Ninel et Patova, comme des dizaines d'autres savants, est sommée d'accepter cette mission qui lui est confiée. Les inspecteurs du NKVD viennent d'ailleurs les chercher, un par un, à leur domicile. L'endroit où on va les emmener, lui, est tenu secret. Les scientifiques font le voyage avec leur famille pour une destination connue des seules autorités. Interdiction leur est faite de communiquer avec qui que ce soit. Ils sont seulement autorisés à dire à ceux de leurs proches qui restent sur place qu'ils partent en mission pour une durée indéterminée. En réalité, ils ignorent qu'ils s'en vont pour 10 ans, à près de 9000 kilomètres de chez eux, aux confins du Kazakhstan et de la Mongolie. Ce site ultra secret est un territoire grand comme 2 fois l'Île-de-France, situé à 150 km du fleuve Irtych, au cœur de l'Asie centrale. Les autorités soviétiques ont délimité un périmètre de steppe considéré comme désert, auquel ils ont donné le nom de polygone de Semipalatinsk. Le long du fleuve, une ville a été créée pour héberger les chercheurs affectés aux recherches nucléaires. À quelques pas des habitations, il y a un bâtiment immense, austère, opaque, que l'on appelle l'installation. Il y a ici des centaines d'ingénieurs, des militaires, des civils. Pour fournir de la main-d'œuvre, Staline dispose d'un contingent maison, les déportés au goulag. En ces années d'après-guerre, ça représente des millions d'individus. Pour vous donner une idée, en février 1944, celui que la presse surnomme « le meilleur ami des déportés » a exilé la totalité du peuple tchétchène au Kazakhstan. Une opération qui confine au génie logistique. 650 000 personnes jetées dans 700 wagons en moins de 24 heures et emmenées à 4000 km de chez elles. Parmi les déportés qui sont ainsi envoyés pour prêter main forte aux chercheurs, il y a donc des Tchétchènes, des Ingouches, mais aussi des Allemands, des Coréens, des Grecs, des Italiens et, le croirait-on, quelques Anglais échoués ici on ne sait comment. L'objectif pour le groupe de savants convoqué par Staline tient en une phrase « mettre au point une bombe plus puissante que celle qui a détruit Hiroshima ». Et pour cela, il faut approfondir les connaissances relatives à la fission nucléaire en trouvant d'autres méthodes que celles volées par les espions soviétiques aux États-Unis. Parmi les jeunes scientifiques réquisitionnés pour participer aux recherches, nous avons déjà fait la connaissance de Ninel et Patova. Il est temps de vous présenter un futur prix Nobel présent lui aussi sur place, Andreï Sakharov. En 1949, il a 28 ans, Comme ses collègues, il a été averti du caractère top secret de la mission.
Dans les derniers jours de juin, une voiture militaire s'arrêta devant notre datcha et un officier, tiré à quatre épingles, en sortit. Il m'invita à le suivre immédiatement chez Vannikov. Il me dit que nous devions partir immédiatement. « Allez à X », me dit-il. Il me donna l'adresse. « On vous y expliquera tout. » Je trouvais à l'adresse indiquée une pancarte annonçant un entrepôt de fruits et légumes. Je descendis dans un local situé en contrebas de la rue. Je passais devant des hommes qui ressemblaient à des magasiniers. Il y en avait un en train de sommeiller, deux autres jouaient au domino. Dans la pièce suivante, il y avait un homme pâle et nerveux derrière un bureau. Quand il apprit que je devais me rendre chez Cariton et que je n'y avais jamais été auparavant, il me délivra un laissez-passer et m'expliqua quel train et quel wagon je devais emprunter. J'arrivais le soir à la gare et montais dans le wagon que l'on m'avait indiqué, après avoir franchi le cordon d'hommes en civil et en uniforme qui l'encerclait. Je ne dormis pas de la nuit. On manquait d'air dans le compartiment. Au terminus, nous montâmes dans les voitures qui nous attendaient et partîmes à une vitesse folle pour l'installation. Dans la lumière pâle de l'aube, je voyais les izbas à moitié en ruine, aux toits de planches pourries ou de vieilles pailles, des guenilles pendues à des cordes, le bétail du kolkhoz, sale et maigre encore, malgré la bonne saison. La voiture de tête écrasa une poule qui traversait la route. Soudain, la voiture freina brutalement. Devant nous, s'étendait la zone, deux rangées de barbelés séparées par une bande de terre labourée. Nos chers barbelés, comme nous disions par la suite quand nous arrivions en vue des frontières de l'installation.
À l'époque de son arrivée au Kazakhstan, Sakharov est encore un anonyme, mais il est intelligent, prometteur et consciencieux. Sa formation le dédiait initialement au traitement des alliages métalliques. Durant la guerre, il s'est fait apprécier pour son ardeur au travail. Au plus fort de l'offensive allemande, il a été délégué au calibrage des douilles de balles de mitrailleuses. Pas grand-chose à voir avec la fission nucléaire. Mais il a attiré l'attention des autorités en inventant un petit appareil capable de vérifier le calibrage des fameuses douilles beaucoup plus rapidement qu'auparavant. En réalité, pendant ses études, Sakharov a eu la chance de recevoir l'enseignement du physicien le plus célèbre du moment, un dénommé Tam. Dès lors, son esprit a pu se former au développement des idées les plus extravagantes, avec cette certitude qu'elles avaient forcément une application concrète dans la vie de tous les jours. Sakharov se souvient par exemple de ce jour où Tam a fait irruption dans la salle de cours en agitant entre le pouce et le majeur une éprouvette remplie d'eau. À ce moment-là, il a démontré à ses élèves sidérés comment développer les systèmes de radars sous-marins. Parce que la simple observation du comportement des bulles d'air agitées dans un flacon rendait compte du comportement des ondes radio dans un océan agité par la tempête. Sakharov, qui était d'un naturel rêveur, se dirigea dès lors vers la physique nucléaire, la plus propice, selon lui, aux idées abstraites et à l'édification des projets les plus fous. Sakharov n'a donc pas 30 ans quand les autorités, séduites par le profil de ce jeune homme inventif et industrieux, décident de mettre son intelligence au pressoir du grand projet qui taraude Staline. Il est désormais temps de mettre au point une arme de destruction massive nouvelle qui sera la propriété exclusive de la Grande Union soviétique. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacrée à Sakharov et la bombe atomique. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. À très vite.